おかしいおかしい。
Bonsoir, bienvenue dans cette émission Tribune de la Presse ce soir qui vous propose trois thèmes, à savoir clôture mardi dernier du premier congrès de l'Union pour la démocratie, le progrès social et l'UDPS en cycle. Parmi les résolutions, Étienne Tshisekedi, désigné candidat à l'élection présidentielle de 2011. Ensuite, Vital Kamerhe démissionne de l'Assemblée nationale et du Quartier. Il fait désormais partie de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti nouvellement créé et déclaré de l'opposition. Et enfin, le tout-puissant Mazembe en finale de la Coupe du Monde des clubs des champions de la FIFA, l'équipe congolaise a battu mardi dernier l'international Porto Alegre du Brésil à Abu Dhabi en demi-finale par 2-0. En finale, le tout-puissant Mazembe rencontre ce samedi l'Inter Milan d'Espagne. Quoi qu'on fasse, une journaliste qui participe à ces débats, il s'agit de Marcelin Mandouakila, il est directeur des rédactions au quotidien Forum des Arts, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandouakila.
Bonsoir Guy.
Bélard Mouy, il est éditeur du magazine Echo de Galate, c'est un magazine qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mouy.
Bonsoir Guy.
Gaston Moussid, il est directeur de la radio-télévision Manika, émettant depuis la ville de Kolwezi au Katanga. Bonsoir Gaston Moussid.
Bonsoir Guy.
Nous allons suivre cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak pour savoir comment la presse chinoise a traité les différents thèmes retenus pour le débat de ce soir.
Bonsoir. Deux titres ont occupé les unes des journaux paris cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de la clôture du premier congrès de l'UDPS et la démission de Vital Kamerhe du PPRD et de l'Assemblée nationale. Le potentiel rapporte que devant près de 5000 délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays, dont les leaders du paysage politique de l'opposition congolaise, le président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a réitéré sa décision de briguer la magistrature suprême. Pour le potentiel, ce premier congrès de l'UDPS s'est voulu un cadre d'études, de stratégie pour une nouvelle direction du parti dans le contexte politique actuel. Dans la bataille de ces présidentielles 2011, après la candidature d'Étienne Tshisekedi, voici Gaston Bindo qui vient s'ajouter à la course, s'exclamant la prospérité, qui estime que cet ancien directeur de campagne de Tshisekedi lors des élections boycottées en 2006 ne saurait plus reculer ni se faire prier pour ses prochaines élections présidentielles en RDC. À propos de cette candidature à la présidence de la République, fait remarquer l'avenir, c'est pour la énième fois depuis la mort de Mobutu qu'Étienne Tshisekedi brigue la présidence de la République sans aller au bout. Terminons cette revue de la presse avec la démission de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale et du PPRD. Le Phare estime que l'ancien président de l'Assemblée nationale, après avoir analysé les 4 années de la législature en cours, a constaté que les promesses électorales faites par la classe dirigeante à la population congolaise n'ont pas été tenues. L'absence du leadership, la mauvaise gouvernance, la clochardisation de la population et l'insécurité. À voir comment les choses se passent, fait observer le palmarès. Kamerhe qui entend aligner son parti dans l'opposition pour les prochaines échéances électorales devra choisir en réalité entre l'alignement derrière le grand parti de l'opposition ou faire cavalier solitaire.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse de cette semaine?
Comme d'habitude, la presse essaye d'apporter à ses lecteurs l'information de manière objective. C'est comme ça qu'on aura remarqué cette semaine, la presse n'était pas à côté de l'actualité, qu'il s'agisse du congrès de l'UDPS ou de la conférence de presse de Vital Kamerhe.
Oui, Bélard Mouy, vous êtes éditeur du magazine Echo de Grand Lac, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse?
Bien, disons que la semaine a été essentiellement politique et la presse ne s'est pas trompée en argumentant chacun selon son option éditoriale, les faits essentiels qu'il y a eu au courant de la semaine, à savoir la fin du congrès de l'UDPS ainsi que ses résolutions, et de l'autre part, la source officielle du parti UNC Digital Camera, ainsi d'ailleurs que de sa tournée qui a commencé à l'Est avec les péripéties qu'on a connues. Je crois que la presse a vraiment été sur la bonne ligne sur ce point-là.
Gaston Moussoud, vous êtes directeur de la radio-télévision Manica, qui est née depuis la ville d'Écologie au Katanga. Et quelle est l'actualité qui est à la une dans la province du Katanga cette semaine?
L'actualité, c'est d'abord la victoire de Tupisa Mazembe au Champions League, aux coupes qui se passent à Abu Dhabi, mais aussi ces perturbations politiques qui se vivent aujourd'hui dans la capitale, notamment la double démission de Vital Kamerhe et éventuellement le congrès de l'UDPS qui lui donne 5 ans devant lui et qui cite Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2011. Et donc, il y a énormément de choses qui concernent le Katanga, mais de façon générale, les trois éléments sont vraiment très importants.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Clôture mardi dernier du premier congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Parmi les résolutions, Étienne Tshisekedi désigné candidat à l'élection présidentielle de 2011. Étienne Tshisekedi investi candidat à l'élection présidentielle de 2011. Cette résolution a été publiée mardi dernier à l'issue du premier congrès national de l'UDPS. Le bureau politique qui donne l'information indique que ce choix se justifie par le leadership qu'incarne le président de l'UDPS, mais également par la nécessité d'imposer une alternance politique en République démocratique du Congo en vue d'opérer un changement dans la gouvernance. Cette désignation a rencontré non seulement la satisfaction des militants de l'UDPS, mais aussi celle de plusieurs invités à cette manifestation. Reportage de Mimi Ngumba Mulongo.
C'est dans cette ambiance festive que les militants de l'UDPS ont accueilli la désignation de Étienne Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2011 en RDC. Ce choix est le résultat d'une élection opérée pendant son absence au pays, a affirmé le bureau politique de ce parti. D'après la même source, c'est le seul candidat qui réunit tous les critères exigés, notamment le charisme, comme nous le dit Valentin Moubaké.
Autant de qualités, de constance, d'intégrité morale, de valeurs républicaines que le seul meilleur candidat à l'élection présidentielle que nous espérons gagner haut la main.
Surpris agréablement par cette nouvelle, Étienne Tshisekedi n'a pas manqué de le faire savoir.
C'est avec émotion et joie que j'accepte d'être président du parti. C'est également avec émotion et joie que j'accepte d'être le candidat du parti.
Une autre résolution issue de ce congrès est l'élection par consensus d'Étienne Tshisekedi comme président du parti pour les 5 prochaines années. La cérémonie de ce jour a aussi été marquée par plusieurs discours, notamment ceux des représentants de partis politiques de l'opposition soutenant l'action de l'UDPS.
Marcelin Mandouakula, c'est quand même une première, c'est pas tous les jours que les partis politiques au Congo organisent des congrès. Peux-vous dire un mot par rapport à ces congrès organisés par l'UDPS?
Oui, disons deux choses. D'abord, comme vous l'avez dit, ce n'est pas dans notre culture. Le dernier congrès de l'UDPS, je ne sais pas quand il date. C'est vraiment ça date de très très longtemps.
On qualifie ces congrès des premiers congrès de l'UDPS.
Ah, exactement. Donc ça fait longtemps que l'UDPS est là. Au début, il y avait 4 présidents et les 3 autres ne sont plus là. Il y en a 2 qui sont morts de Théaléram. Pour une fois, l'UDPS tient un congrès pour désigner son président et déterminer son mandat de 5 ans, c'est une bonne chose. Donc, cet exemple mérite d'être suivi par d'autres partis. On a l'impression que le parti appartient au président fondateur et qu'ils peuvent décider de tout et faire tout ce qu'ils veulent. Et deuxièmement, que sa candidature soit endossée par l'UDPS au niveau de la présidence de la République, c'est une bonne chose parce que c'est le meilleur cheval dont dispose l'UDPS.
Donc c'était prévisible, c'était pas une surprise.
Et surtout qu'ils ont fait le fait de leur boycott en 2006. Donc il y a une revanche que l'UDPS ne pouvait que prendre. Tshisekedi vise plus haut, c'est tout à fait normal, il a déjà été Premier ministre, et c'est le seul poste qui peut vraiment le tenter.
Bernard Bouilly, quel est l'effet que cette investiture de la candidature de Tshisekedi peut susciter au sein d'abord de l'opposition et au sein de la classe politique congolaise, hein? Il faut reconnaître que c'est une nouvelle donne.
Exactement, c'est une nouvelle donne parce que là, c'est, je dirais, le couronnement de toute une lutte politique. Vous savez, l'UDPS est le tout premier parti d'opposition que nous avons pu voir dans ce pays, le seul à avoir pu braver la dictature de Mobutu à l'époque où personne ne pouvait oser lever son petit doigt. sont souvent, on l'appelle la fille aînée de l'opposition. Certes, il a exité le Palou, qui a exité le 64, mais depuis que nous sommes nés dans ce pays, Mobutu était président, il n'y avait aucun parti sur le terrain qui pouvait braver Mobutu. Depuis, ça a été le premier sur ce plan-là. Il a également été le principal parti qui a pu faire face au régime autocratique qui avait installé le président Misé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme également lui aussi. Malheureusement, une fois venu le moment des les premières élections dites démocratiques en 2006, l'UDPS a eu à faire marche arrière, ce qui n'a pas pu permettre à ses nombreux militants et sympathisants de pouvoir lui apporter leur choix sur le plan des urnes et voir un peu quelle était la valeur sociologique de ce parti. Et bien là, il s'agit d'une occasion vraiment importante pour que l'UDPS puisse montrer de quoi elle est vraiment capable. Et au niveau de l'opposition, vous savez que Jean-Pierre Bemba avait essayé de reprendre la place. Malheureusement, pour lui, il a été arrêté par la CPI. L'opposition se sentait un peu orpheline. Et voilà que tout d'un coup, son leader charismatique revient au pays. Et on constate que sa popularité n'a pas pris une ride. L'homme est resté vraiment égal à lui-même. Il reste vraiment populaire au niveau de la ville de Kinshasa et même dans un certain nombre de provinces du Congo. Et là, l'opposition se retrouve du coup avec son leader charismatique. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre né également, on en parlera, le deuxième thème de cette émission, Vital Kamerhe aussi, avec le Rwandais, oui, justement. Mais là, franchement, l'UDPS tient à montrer, franchement, que ce qu'elle a toujours été par le passé, une force sociologiquement importante avec laquelle il faut compter au niveau du pays.
Gaston Moufid, s'il faut parler des forces en province, du côté de l'opposition, il y a le MLC, il y a le RCBN, le RCD, le CONUS, l'UNR, la CDC. Bon, évidemment, on ne va pas parler de tous les partis politiques. Hein, mais comment vous entrevoyez l'avenir de cette opposition qui a été qualifiée de désordonnée, désorganisée? Comment vous entrevoyez son avenir avec la candidature déclarée de Félix Tshisekedi?
Oui, il faut dire aussi que l'opposition, comme vous le dites, n'a pas réussi à se mettre ensemble autour d'une même table pour faire une vraie opposition. Si l'alliance ou la majorité a réussi, mais l'opposition a travaillé dans l'ordre dispersé. Mais aujourd'hui, en RDC, on ne connaît pas un opposant du charisme de Kim Tshisekedi, aujourd'hui, qui revient aux affaires et qui doit, à mon avis, faire très peur aux différents autres candidats à la présidentielle. Les autres oppositions qui existent, peut-être non, mais il n'y en a pas qui sont très populaires, parce qu'il faut être opposant, mais il faut aussi avoir des gens autour de soi pour être en mesure de représenter une force. Mais là-dessus, je voulais ajouter quelque chose de cet ami Marcelin. Je me dis que l'UDPS a tenu son congrès et Étienne Tshisekedi devra diriger l'UDPS pendant les 5 prochaines années et il est candidat à la présidentielle. C'est un bon choix et je crois que l'UDPS se réveille après ce qui s'est passé en 2006. Et moi, je me dis un tout petit peu que ça va être beaucoup de retard que l'UDPS aujourd'hui essaye de se redresser. Tenez, Antoine Kizenga, qui a fait la lutte avec Tshisekedi, a été aux affaires. Tout le monde pleure de son immobilisme, des faits qu'il a fait. Donc on croit que quand on est Dieu, on n'est plus intelligent, on n'est plus capable de faire ce qu'on devait faire. Il a dû démissionner parce qu'il a trouvé que la force de l'âge le freinait. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, il n'est plus la même. Hein. En 2006, il représentait beaucoup dans les camps de l'opposition. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il va compter avec Kinshasa plus qu'avec le centre. Mais beaucoup déjà commencent à penser que il n'a plus la même force, il n'a plus le même charisme parce qu'il est devenu vieux. Il est déjà malade. Est-ce qu'il va bien diriger ce pays? Est-ce qu'il va répondre aux aspirations pendant 5 ans ou 5 s'il gagnait les 5 prochaines années? Bon, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin? Parce qu'il ne faudrait pas avoir un président de la République qui démissionne après 2 ans parce qu'il est fatigué. Et donc, il y a là des questionnements à se poser. Tshisekedi est-il encore en forme pour pouvoir conduire ce pays?
Oui, Tshisekedi a totalisé 78 ans d'âge le mardi dernier. mais il faut aussi dire qu'il y a des chefs d'État, c'est comme notamment le président Mugabe du Zimbabwe qui a plus de 84 ans, et il y a aussi Wade du Sénégal qui a au moins 85 ans, et ainsi de suite. Vous pensez qu'avec 78 ans, on ne peut pas gérer un pays quand il y a des gens qui, au-delà de 78 ans, ils sont là, ils sont en train de briguer de nouveaux mandats?
Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que c'était bien là, pas seulement 78 ans. Il est aussi malade. Je crois qu'il a été longtemps en Europe pour se faire soigner. Et aujourd'hui, ceux qui ont été aux affaires, parce qu'il faut dire aussi que pour organiser les élections présidentielles, il faut avoir le moyen de battre campagne. Aujourd'hui, ces gens-là ont réussi à s'accaparer des richesses pour pouvoir s'assurer une mobilité lors de la campagne. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de députés de l'UDPS qui ont été aux affaires. Il n'y a pas de ministres de l'UDPS qui ont été aux affaires. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers pour pouvoir soutenir la politique? Et donc, je crois que Tshisekedi n'a pas zéro chance aux élections de la présidentielle. C'est un opposant, je l'ai dit, l'incarnation de l'opposition en RDC. Mais je suis en train d'évaluer ses chances de succès. C'est un petit peu ça, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas obtenu des cartes d'électeur, parce que quand on va faire des transactions bancaires, on va faire des achats, on a besoin par moment de cartes d'électeur, et eux n'en ont pas. Et il y a des gens qui ont bénéficié de postes ministériels, de postes au Parlement, qui ont manqué tout simplement parce que lui avait donné un mot d'ordre. Est-ce que ces gens-là, ils vont avoir la même confiance que leur leader aujourd'hui, après avoir perdu 5 ans pendant que les autres en ont profité pour amasser des richesses? Je crois qu'il se pose un problème de chance de succès. Mais tu sais que lui, il, en tant qu'opposant, représente vraiment un danger par rapport aux forces en présence.
Marcel Mandakiva, qui veut dire qu'il représente un danger par rapport au pouvoir en place, et vous pensez que cette candidature peut laisser indifférent la classe politique congolaise?
Il faut d'abord relever une chose. Si c'est qu'il est leader charismatique de l'UDPS, oui. Si c'est qu'il est leader charismatique de l'opposition, oui et non. Oui, parce qu'il a mené un long combat, c'est le plus vieux, etc., etc. Mais non, parce qu'il faut quand même formaliser cela. Quand vous suivez ce qui s'est passé, vous aurez remarqué que le MLC, l'UMC et le RCD ont tenu des réserves. Même à la clôture du congrès de l'UDPS, il y a un membre du MLC, Constant Donc, qui a soutenu au nom de son parti la candidature de Tshisekedi. Quelques temps après, il y a eu une mise au point avec un autre membre du MLC, Thomas Luaka, pour dire que le MLC n'a jamais stacké sur ce cas. Même lorsqu'il a fait sa conférence de presse la semaine dernière, François Mamba avait quelque peu banalisé le retour de Tshisekedi. Hein, qu'il est rentré dans son pays, il est rentré à bonne santé, il s'est limité là. Donc, il faut quand même formaliser au niveau de l'opposition, s'il faut que ce soit Tshisekedi qui mène les troupes au combat, qu'est-ce qu'il accorde aux autres en échange, mais il faut qu'il y ait des garanties, un minimum d'accord entre les différents acteurs de l'opposition pour que l'opposition soutienne Tshisekedi. Mais apparemment, on ne semble pas encore tendre vers cet objectif, parce que même Tshisekedi, s'agissant des gens qui ont posé problème au sein de l'UDPS, qu'il a qualifié de compatriotes égarés. Il décrète une amnistie générale et ensuite il dit que les compatriotes égarés rentrent en commençant par la cellule de base, en tant que le parti. Ça aussi, ce n'est pas de nature vraiment à renforcer les troupes au niveau de l'UDPS. Et même au niveau de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, je crois que vous le savez, il y aura la question du porte-parole de position à l'ordre du jour. Comment tout cela va-t-il se passer? Qui sera porte-parole? Donc, c'est des questions sur lesquelles les opposants doivent sérieusement discuter, débattre, pour pouvoir parler le même langage aux prochaines élections. Encore une fois, le plus, c'est qu'il y a un point que je ne dirais pas leader charismatique. En tant que vieux lourd de la machine politique, surtout au niveau de l'opposition, c'est à lui à inviter les autres autour d'une même table pour parler le même langage, et non pas se considérer comme leader naturel, et que tous doivent se lancer derrière lui automatiquement. Ce serait une erreur.
Mais là, Mouli, quelle est la meilleure démarche? Il faut chercher, il faut avoir un candidat unique pour le moment, ou alors il faut y aller de façon dispersée aux élections?
Eh bien, les deux démarches sont valables, selon moi, sincèrement parlant. On peut aller vers une candidature unique, c'est une bonne chose, mais il n'est pas dit que la candidature unique soit l'unique moyen pour arriver à la victoire. Le cas de la Côte d'Ivoire est encore récent dans nos mémoires, parce que On a pu voir les opposants s'organiser. Bédié était candidat, Ouattara était également candidat. Mais le sensuel ici, c'est ceci. Dans tous les pays du monde, hein, il faut que chacun sache se mesurer, chacun sache quel est son poids réel dans le microcosme politique. Parce que chaque parti ne vaut pas chaque parti. Il y a les partis qui sont, je dirais, les leitmotiv, il y a d'autres partis qui ont le destin d'être des partis d'appoint. Marcelin vient de citer par exemple ici le RCD, mais quel RCD ? Aux élections de 2006, le candidat à la présidentielle n'a eu que 1%. Est-ce qu'il va vous dire que voilà, moi je vaux autant que Bemba par exemple ? Non, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des partis d'appoint et des partis essentiels. Au jour d'aujourd'hui, il est clair pour nous qui sommes analystes politiques, nous savons voir qu'aujourd'hui, en plus du président de la République sortant, qui est un candidat important, les deux candidats qui se dessinent comme étant des candidats importants devant l'opposition, nous avons d'un côté Étienne Tshisekedi, de l'autre côté Vital Kamerhe. Bien, les autres partis d'appoint vont s'aligner les uns derrière Tshisekedi, les autres derrière Kamerhe. Mais l'essentiel, le point le plus important, c'est qu'il puisse y avoir un front républicain entre les deux. Et c'est ça qu'il faut surtout se baser. De sorte que si l'un des deux est au deuxième tour avec le président sortant, que l'autre qui a été éliminé au premier tour puisse soutenir le restant. C'est ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire avec Bédié qui a été éliminé au premier tour et qui a soutenu Ouattara et qui a gagné sur le plan de la réalité. C'est sur ça qu'il faut se baser. Il ne faut pas dire non, voilà, il y a CDC, il y a FCD, il y a ceci. Nous avions dans notre pays, c'est en 2006, 32 candidats. Je vous assure que sur les 32 candidats, à peu près 29 n'ont fait qu'un total de moins de 5%. Tous se réunissent. C'est comme en Côte d'Ivoire. Trois candidats ont fait à eux seuls 95%. Donc les 11 autres n'ont fait que 4% et quelques
autres. Gaston Moussid, vous êtes à Kolozi, au Katanga. Comment se porte l'UDPS au Katanga?
L'UDPS à Lubumbashi est présente. À entendre parler des déclarations à la presse, souvent par le fédéral, à Kolozi, il y a l'UDPS qui existe, mais qui s'est réuni à peine. Et il y a l'UDPS qui quelques déclarations à faire, mais l'UDPS n'a pas une bonne santé à Kolozi.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Vital Kamerhe démissionne de l'Assemblée nationale et du PPRD. Il fait désormais partie de l'INC, Union pour la Nation Congolaise, parti nouvellement créé et déclaré de l'opposition. Dans la toute première matinée politique de l'INC, mardi dernier au quartier GB, ici à Kinshasa, l'ancien président de l'Assemblée nationale a sévèrement critiqué le régime en place et dénoncé un gouvernement parallèle qui agit au détriment du bien-être du peuple congolais. Ce qui est, a-t-il déclaré, une déception par rapport au projet de société du PPRD, parti dont il était cofondateur. Écoutez Vital Kamerhe dans un extrait de sa déclaration ce mardi au micro de Inosa Olenga.
Concernant mon avenir politique, j'ai l'honneur de vous tenir informé officiellement de ma démission du PPRD par ma réponse de vous en secrétaire général du PPRD et de poser au siège de tout parti. Consécutivement à ma démission, le PPRD, parti politique au nom duquel j'ai été élu député de la circonscription de Bukavu, je vous annonce que je viens également de déposer ma lettre de démission en tant que député au président de l'Assemblée nationale. Nous avons décidé avec un certain nombre de compatriotes soucieux de l'épanouissement de notre société et du développement de notre pays de créer un nouveau parti politique, l'Union pour la Nation Congolaise. L'UNC était parti de l'opposition.
De l'Ambouilly, nous allons lire les lignes de certains journaux. Ici, le quotidien L'Observateur dit « Vital Kamerhe quitte le PPRD et crée l'UNC ». Le Phare dit « Le terrible constat de Kamerhe ». L'Observateur, une fois de plus, dit « Vital Kamerhe PPRD la rupture ». Le Phare dit « Kamerhe l'heure des vérités ». Autant des journaux qui ont évoqué cette déclaration de Vital Kamerhe, comment vous avez réagi à cette déclaration sur un état du départ de Vital Kamerhe, du PPRD, de l'Assemblée nationale et de la création de son parti politique?
Bien, disons ceci. Je suis heureux de constater quand même un fait. Il y a une année et demie, je crois que c'était au mois d'août ou de juillet de l'année passée, j'avais fait une grande analyse sur Vital Kamerhe. J'avais écrit, le titre c'était « Vital Kamerhe est-il à la hauteur des espoirs suscités ?» c'est vraiment une de mes plus grandes analyses que j'ai fait dans ma carrière de journaliste.
C'est un article qu'on peut retrouver sur Internet.
Sur Internet, exactement. Il suffit de frapper. Ta mère est-elle à la hauteur des espoirs suscités? Chacun peut y accéder. Bon, ça date d'il y a une année et demie. Et je suis heureux de constater que tout ce que j'avais prédit concernant l'homme ta mère est en train de se réaliser. J'avais en fait constaté déjà dès le départ, parce que je connais assez bien l'homme, depuis le temps où il me donnait cours en premier graduat à l'université de Kinshasa, économie politique. Je connais quand même l'homme, c'est un homme idéal, c'est un homme déterminé, il est courageux. Lorsqu'il tient à une chose, il fait tout pour se donner les moyens humains et matériels pour y parvenir. Et c'est un homme qui a de la personnalité. J'avais vraiment dès le départ constaté qu'il allait prendre son temps pour réfléchir, il allait certainement chercher des appuis au niveau diplomatique. Et ce qui s'est passé exactement, je veux constater qu'il va finir par créer son parti politique, et c'est ce qui vient de se passer. Il y a toute une suite de faits que j'ai également prédit, dont j'attends l'accomplissement, bien entendu. Ça ne m'a pas étonné du tout, c'était dans le fil droit même de ce qui devait se passer.
Oui, Marcelin Mandokila, Vital Kamerhe a poussé certaines raisons pour justifier sa décision. Il dit la politique étant dynamique, des contradictions peuvent amener des gens qui continuent d'être très esseurs de se séparer dans certains tournants de la vie politique. Comment vous analysez cette raison poussée par Vital Kamerhe?
Oui, c'est tout à fait normal. Quand Kamerhe, dans son discours, fait allusion au gouvernement parallèle, c'est pas par hasard. Il y avait un conflit ouvert entre lui et certains proches du chef de l'État. C'est ce qui a poussé à ce qu'on arrive, là on en était arrivé. Bon, Kamerhe, en tant que Congolais, il a tous les droits. Il a le droit de démissionner du PPRD, de l'Assemblée nationale, de créer son parti et même de passer à l'opposition. C'est vrai qu'il évite des débats autour des individus, comme il le dit, simplement par respect pour Joseph Kabila, qui est quand même celui qui a fait les Kamerhe, c'est qu'il est juste aujourd'hui. Mais il est maintenant quand même de savoir capitaliser des espoirs qui semblent incarnés. Dans l'opposition, quelle garantie il amène? Parce que déjà certains semblent le comparer en gros, en parlant de versatilité. Il était très proche, même dans la vie privée du chef de l'État, et aujourd'hui il passe de cette position à une position extrême au niveau de l'opposition, et jusqu'à prétendre être candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire de les garantir à l'opposition. Il serait également un président pour l'opposition, d'accueillir Kamerhe les bras ouverts sans se poser des questions. Mais je crois que dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais comme cheval. Parce que Kamerhe apporte au niveau de l'opposition la caution de l'Est qui faisait tant de coups. Et Kamerhe, on a vu dans sa conférence de presse, il n'était pas seul. On a vu Paï Paï. On a vu Kudura Kassong. Peut-être qu'il y en a tant d'autres. Donc, l'opposition qui jusque-là était plus basée à l'Ouest, avec cette caution de l'Est qui vient de lui être apportée, je crois que ça permet à l'opposition de vraiment étaler ses tentatives sur l'ensemble de la nation, du territoire congolais. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois qu'il ne faut pas non plus juger Kamerhe trop tôt. On doit le juger aux actes. Mais je me rends compte aussi qu'à peine qu'il a commencé, à peine il se perd au pouvoir.
Gaston Moussid, la presse chinoise a largement fait écho de cette actualité. Et comment ça s'est passé là à Kolwezi? Est-ce que la presse a analysé le départ de Kamerhe et la création de son parti politique?
La presse à Kolwezi a analysé le départ de Kamerhe et continue à l'analyser parce qu'il était à Goma, il est à Bukavu et on en parle. Tout le monde en parle parce que Kamerhe, comme l'a dit mes autres confrères, c'est quand même un pion important. Kamerhe ne veut pas être comparé à d'autres opposants qui ont obtenu 0,5%. Kamerhe, c'est quelqu'un qui a battu la campagne à l'Est pour le compte du PPRD, du chef de l'État, et les résultats, tout le monde a vu ça. Kamerhe va créer son propre parti politique. Moi, je me dis qu'il y a d'une part et de l'autre un effet de zèle. Parce que Kamerhe a quitté le perchoir, a été forcé de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale par sa famille politique, et il est resté. Moi, je crois qu'il appartenait aux membres de la famille politique de l'aborder. Et non, c'est l'avant-famille, dit-on. Je crois qu'on pouvait trouver un compromis et essayer de le faire raisonner de manière à ce qu'il se sente aussi aimé et appartenir à une sens qui appartient à une famille qui le protège. Aujourd'hui, Kamerhe se sent abandonné, croit qu'il ne mérite pas ça. Avec tout ce qu'il a fait pour sa famille politique, c'est que Kamerhe n'a pas joué un petit rôle dans l'implantation du PPRD à travers la République démocratique du Congo. il se croit abandonné, et là, il va créer une opposition. Moi, je trouve ça très dangereux parce que sa mère est un fils de la maison. Aujourd'hui, il est parti avec tous ces gens qui peuvent se greffer autour de lui. Il est vite allé à l'Est, parce qu'il faut qu'à l'Est, il a gagné les deux voix lors de la présidentielle à 2006. Il est en train de vouloir conquérir déjà l'Est, et ça ne peut pas apporter beaucoup de bonheur. Parce que aujourd'hui, la présidentielle 2011 se présente avec trois hommes forts. Quand on parle de Joseph Kabila Kabange, qui est aujourd'hui président, qui a géré, qui devra être, qui se représente comme candidat du PPRD, il y a Étienne Tshisekedi qui revient aux affaires, et il y a en plus Vital Kamerhe. Et moi je crois qu'il faut voir si réussit à faire une alliance avec le MLC, avec le... Et c'est que je pense, je reproche au PPR, aussi l'excès des ailes. On a suivi Koyadialo sur RFI. Il dit, il est parti, ça ne se préoccupe pas. Moi, j'ai dit que ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter.
Allô? Apparemment, on l'a perdu. Bélard Mouy, Gaston dit que sa mère est partie parce qu'il s'est senti abandonné. Vous pensez qu'il n'est pas parti par conviction?
Non, en fait, oui et non, mais je dirais essentiellement que Tamir est un homme qui a subi beaucoup d'humiliations, beaucoup de très nombreuses promesses, en fait. Si, franchement, on avait pu retrouver l'analyse de fait, j'avais démontré, franchement, point par point, tout ce qui lui a été promis et qui ne lui avait pas été concédé. On lui avait promis les affaires étrangères, quand il avait pris le pouvoir, on ne lui a pas donné. On l'a envoyé au commissariat général du gouvernement pour le dialogue avec les Congolais. On lui a promis la vice-présidence pendant le 1+4, puis le ministère de l'Intérieur. On ne lui a rien donné de tout ça. On l'a confiné au ministère de l'Information. Il a accepté humblement. Le PPRD était une coquille franchement vide qui tardait à décoller. On le lui a confié. Il en a fait une vraie machine de guerre, une vraie machine électorale. Et au moment de la victoire, il n'obtient pas ce qu'il espérait, c'est-à-dire la primature. On l'envoie à l'Assemblée nationale, où il trouve un autre candidat député du même PPRD qui était tenu par ce qu'il qualifie des gouvernements parallèles là. Donc il a subi autant d'humiliations, mais il n'était jamais parti pour cela. Mais il arrive à un moment donné où il a des convictions nettes, il se dit, notre pays ne peut pas accueillir comme ça des armées étrangères sans que la représentation nationale ne soit mise au courant, sans que le peuple ne soit averti, il le dit haut et fort, eh bien, on lui frappe l'épée sur la tête. La Sénégal Métro, il décide de se révolter.
Et vous pensez que c'est toujours au président de l'Assemblée nationale,
oui.
Il aurait pris ses courage aujourd'hui de dénoncer la gouvernance et quitter la présidence de l'Assemblée nationale pour créer un parti d'opposition.
Disons clairement ceci, la gestion de la présidence de l'Assemblée nationale par Vital Kamerhe, franchement c'est quelque chose qui a impressionné agréablement les Congolais. Kamerhe a géré cette Assemblée vraiment étant au milieu du village. Si un observateur étranger arrivait ici, il aurait eu du mal à imaginer que Kamerhe ait su sortir de la majorité présidentielle, tellement il était au milieu du village. Franchement, aujourd'hui, il a quitté, il est passé, il a créé son parti UNC, il va aller de l'avant. Quelle chance a-t-il pour s'imposer en tant qu'homme politique, en tant que leader? Je finis par là, je dirais souvent que c'est un homme qui rassemble de nombreuses qualités sur lui. C'est un homme qui a une bonne formation intellectuelle, une solide expérience professionnelle, du charisme, du punch, et même, je dirais, une belle présence physique dans une élection démocratique, tout cela, c'est quelque chose qui peut vraiment compter.
Marcelo Mandopina, une certaine opinion, hein, vous l'avez même évoqué ici, hein, reste sceptique quant à cette décision de Kamerhe. Cette opinion pense que Kamerhe est en train de jouer le jeu du pouvoir, que ce serait une stratégie qui est montée par le pouvoir en place.
Je crois qu'il ne faut rien négliger et garder l'esprit critique. J'ai toujours l'habitude de comparer la politique à la sorcellerie. C'est moi qui le pense. Donc on ne peut pas d'emblée écarter l'une ou l'autre thèse. En politique, c'est aussi possible de fabriquer un opposant. Surtout quand il s'agit de personnes qui sont versatiles. Ngozi a écrit un livre, Mobutu le Mal Zaïrois, il s'exile en Europe, et revient, il est ministre des Affaires étrangères de même Mobutu. Quand commence la démocratisation, Ngozi est dans l'opposition, il dirige ce camp d'opposition, et puis après, il s'est fait une filière pour avoir la primature, et tout d'un coup, il se retrouve à la tête de la famille politique de Mobutu. Donc, tout est possible en politique. Mais il revient à Kamerhe de donner des garanties. Pourquoi Kamerhe ne s'attaque pas directement à Kabila?
Est-ce qu'ils ont un impact? Point d'interrogation. Est-ce qu'il est fait par élégance politique en tant qu'homme d'État pour avoir été président de l'Assemblée nationale? Point d'interrogation. Quelle garantie Kamel apporte à ce nouveau partenaire de l'opposition? Donc, c'est autant de questions que rien n'est classé d'avance, mais sauf que Kamel apporte quand même assez d'atouts à l'opposition. Et s'il respecte son engagement, il est effectivement dans l'opposition, il parle le même langage pour aller aux élections, je crois que ça pourra mieux marcher.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Le tout puissant Mazembe en finale de la Coupe du Monde des clubs des champions de la FIFA. L'équipe congolaise a battu mardi dernier l'international Porto à l'aide du Brésil à Abu Dhabi en demi-finale par 2-0. En finale, le tout puissant Mazembe rencontre ce samedi l'Inter Milan d'Italie. Camus Mukongo nous fait le compte-rendu du match Tupisa Mazembe et Porto à l'aide du Brésil.
Les corbeaux de Lubumbashi ont surpris tout le monde et participeront pour la toute première fois à la finale du mondial des clubs champions de la FIFA. Les Congolais ont battu les Brésiliens d'International Porto Alegre, champion d'Amérique du Sud, sur le score de 2-0. Le Tupisa Mazembe a encore imposé une pression physique permanente, sans être ridicule techniquement pour venir à bout de souffle de Porto Alegre. L'équipe chère à Moïse Katumbi a frappé peu après le retour de vestiaire, trouvant la faille par Patou Kabango à la 53e, 1-0, avant de porter le coup de grâce en fin de match avec un but d'Alain Kalou Kadjogo à la 85e, 2-0. Ainsi, l'hypothèse d'un nouveau sacre mondial a volé à l'éclat pour l'équipe brésilienne, victorieuse de l'épreuve en 2006. Lors du match de quart de finale, Mazembe avait battu le Mexicain de Pachuca, champion d'Amérique du Nord et des Caraïbes, sous la note de 1-0.
Gaston Moussid, je rappelle que vous êtes directeur de la radio-télévision Manica, c'est une radio-télévision qui émet depuis la ville de Kolozi au Katanga. Et comment la victoire de Mazembe a été accueillie à Kolozi?
Le jour où Mazembe a gagné, beaucoup de gens n'ont pu fermer l'œil parce que c'était une marche de joie. Les gens n'étaient pas sûrs qu'une équipe africaine, une équipe congolaise, pouvait battre une équipe comme celle-là. Vous savez bien que l'équipe qui a été battue, c'est une équipe qui a gagné encore en 2006. Et donc, ça n'a pas été facile, c'était une joie immense. Les gens ont circulé ici, parce que c'était pas seulement une victoire de Mazembe, une victoire seulement du Katanga ou de la RDC, mais c'est aussi une victoire de toute l'Afrique.
Merci, Bélard Mbouyi. Je rappelle que vous êtes éditeur du magazine Echo de Bernard, que c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Mazembe a remporté successivement des coupes d'Afrique. Il s'agit de la Ligue de la CAF, édition 2009-2010. Aujourd'hui, il représente l'Afrique dans cette compétition, donc la Coupe du Monde des clubs de champions de la FIFA. À quoi peut-on attribuer ces exploits? À la volonté? À l'organisation? À quoi?
Bien, cela montre ce que peuvent les Congolais lorsqu'ils sont bien managés. J'avais vu cet homme jeune qui était en exil, qui a regagné son pays, je crois vers 2004-2005, et qui a pris le commande de Mazembe, et qui a pu sélectionner les Congolais de tous les bords.
Vous parlez de Moïse Katumbi.
De Moïse Katumbi Tchapoué, et de tous les bords. Vous retrouvez de nombreux joueurs originaires du Katanga, aux côtés de leurs frères du Bakogo, comme le Bedi Mbenza ou Kalui Tuka, aux côtés de leurs frères du Kasai, comme Tidiaba et Kasongo, de province orientale, comme Kasusula, etc. Mis ensemble, quoi, d'une fois, une ferme volonté de triompher, et les Congolais sont capables de miracles. Aujourd'hui, deux coupes successives au niveau continental, et la finale d'une Coupe du Monde, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a rien qui m'étonne parce que avoir battu déjà le Mexique et le Brésilien, surtout de toute équipe de Porto Alegre, franchement, que Mazembe l'emporte face à l'Inter de Milan, ce ne serait que mérité.
Marcel Mandakila, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui paraît ici à Kinshasa. C'est bon d'accomplir ces exploits, mais à votre avis, comment la République démocratique du Congo peut se regarder ses acquis?
Je crois que l'épopée Mazembe doit servir d'école. D'école parce que quand je regarde Moïse Katumbi, il s'est investi pour cette équipe. Pour cette année, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas sur le site, Mazembe a eu un budget de 7 millions de dollars. 6 millions décaissés par l'entreprise de Moïse et 1 million décaissés par Moïse à titre personnel. Tout un investissement. Ça ne se gagne pas comme ça. Et Moïse est allé au-delà de seul aspect financier, Bélard l'a évoqué, il a monté une équipe à connotation nationale. des joueurs originaires de plusieurs provinces. Et également à connotation internationale avec des joueurs étrangers qui viennent jouer. En fait, nous entrons déjà, je crois qu'on doit être avec Mazembe au niveau du sérieux professionnalisme. Je ne vais pas tellement parler de professionnalisme, il y a encore d'autres aspects qui doivent intervenir, mais au niveau du sérieux professionnalisme. Ça va servir de pont d'école en RDC. Moi, à la place du gouvernement, je dirais qu'il faut prendre ça comme modèle pour relancer le football congolais. J'étais en discussion vraiment avec un ami qui me disait non, le classement FIFA va être truqué. Est-ce que le football congolais est vraiment ce qu'il est? Il faut voir Mazembe. Non, Mazembe, ce n'est quelqu'un parmi tant d'autres. C'est la seule équipe congolaise qui rayonne de cette manière. Mazembe, demain en finale face à l'Inter de Milan. Que Mazembe gagne ou perde, ce qu'ils ont fait, c'est déjà un exploit. Je ne parle pas d'argent parce qu'ils vont gagner 4 millions. C'est rien par rapport aux 7 millions qui ont été décaissés comme budget national, mais en termes de prestige. Donc, Mazembe, je crois, amène le foot, essaye d'ouvrir une porte sur le plan international au profit du football congolais. Il faut maintenant que les autres équipes suivent. Et pour que cela soit le cas, il faut que les autres dirigeants essaient un peu d'être à l'effort de Moïse Katumbi, voir ce qu'il fait, essayer d'améliorer pour que ça marche.
Gassam Sud, la leçon que les autres équipes congolaises peuvent en tirer.
Il faut dire que l'organisation crée des moyens. Moïse Katumbi Tchafo l'a démontré. Le football, ou les Congolais, dans tous les domaines, peuvent faire bien des choses. Mais quand on pense que c'est dépenser de l'argent, quand on pense que... Et ce que fait Moïse, que devait faire le ministère de sport avec l'équipe nationale. Et quand on met le moyen, quand les joueurs ont des travaux dans de très bonnes conditions, et les rendements ne peuvent que suivre. Ce n'est pas seulement dans le football, c'est dans d'autres domaines. Je crois que les Congos doivent se réveiller. Aujourd'hui, toute l'Afrique parle de la victoire de Mazembe. Et on pense que Mazembe a remis la RDC sur la carte. Vous avez suivi le match. Il y a des Brésiliens qui pensent que le Congo est à côté de Paris. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé qu'il existait un pays et il y avait du football comme là, c'est le cas maintenant. Donc Mazembe a démontré que, avec un peu de volonté, on peut arriver à faire ce que les autres font.
Bernard Moïse, ce que fait Moïse, c'est ce que doit faire le ministère des Sports.
Bien, pas forcément. Le management des équipes tient surtout de personnalités individuelles privées, surtout. Moi, je viens de Kananga, je viens de passer plus de 3 mois. Il y a aussi une équipe emblématique sur place à Kananga, qui s'appelle Sinkunku, qui est dirigée par une grande autorité. Vous n'avez pas idée, on a fait venir des enfants de Kinshasa. Ces jeunes gens sont abandonnés à leur triste sort, leur arrive même à manquer à manger. On ne peut pas imaginer. C'est ça, donc, je crois que ce que Moïse Katumbi a fait, sur le plan privé, doit inspirer d'autres. Malheureusement, il semble bien que ce n'est pas encore le cas. C'est encore très loin d'être le cas.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guilhem Nyangas a été à la technique, Alain Rung à la réalisation assistée de Samuel Kachak, sous la supervision de Ben Kabamba, devant ce micro Guy Mathieu. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi. Thank you.